Une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime.
Nous autres, Jean-Martin, on a appelé notre émission Une chance qu'on s'aime parce qu'on pense que pour faire un beau jardin qui pousse bien puis qui est fertile, puis tout, ça prend de l'amour. Mm. À ton avis, là, est-ce que l'amour, c'est un intrant nécessaire ou facultatif pour avoir un beau jardin?
Non, c'est sûr que c'est nécessaire. Écoute, on dirait que tout ce qu'on fait, c'est justement drivé par ça. T'sais, l'amour d'être dehors, l'amour de nourrir les gens, l'amour de s'appliquer à ce qu'on fait. T'sais, comme moi, par exemple, c'est ce qui me branche beaucoup en maraîchage. C'est, je m'applique pour ce que je fais. Quand je fais un semis, je m'applique. L'amour d'être ensemble aussi. T'sais, mettons des belles récoltes en gang, t'sais, de juste passer du temps ensemble. Les oiseaux, tu sais, pour moi, tout ça, c'est de l'amour. Puis je pense que quand t'es dans une shop, tu peux peut-être pas avoir le même feeling amoureux là, avec tout ce qui t'entoure. Puis,
Il faut que tu comprennes au moins le sens plus large que ta job. Alors, tu peux être réparateur de freins puis envoyer de l'amour à tous ceux qui pogneront pas d'accident aussi, j'imagine.
Ah, c'est cool comme introduction, parce que c'est sûr que en bout de ligne, tu sais, les gars, nous, quand on va être mort ou quand on va être sur le bord de mourir, tu sais, l'amour, c'est juste ça qui compte. Là. Le reste, c'est pas vraiment important.
C'est tout ce qui va rester de ce qu'on a donné. Mm. Parce qu'il restera plus d'argent.
Mais ça commence bien, c'est vrai. Puis je pense que l'amour du métier, si tu l'avais pas pour te voir aller, Jean-Martin, t'aurais probablement tiré la plug depuis un bout, non? Je me trompe?
Ben oui, puis tu sais, c'est fou parce que l'amour du métier, quand même, c'est ce qui me garde connecté au travail. Parce que tu sais, évidemment, tu sais, toi, P.A., tu me suis depuis plusieurs années, tu sais, J'ai plusieurs vies, j'ai plusieurs projets, j'ai des projets entrepreneuriaux, tu sais, avec Growers, j'ai aussi, tu sais, les cours en ligne que je fais, tu sais, la ferme des quatre temps, tu sais, c'est beaucoup du chat, mais c'est aussi beaucoup monter un projet, c'est beaucoup de l'administration, c'est beaucoup du développement d'affaires, tu sais, juste de travailler avec, tu sais, je travaillais avec 25 chefs à une époque, tu sais, c'était vraiment de faire des connexions, etc. Mais, je te dis que pour moi, si je m'éloigne trop loin, trop longtemps des jardins, rapidement, ça me rattrape. Puis, oups, là, il y a quelque chose qui marche plus dans ma vie. Cette connexion-là est vraiment saine. Puis, moi, je suis tellement chanceux d'avoir Maud Hélène dans ma vie, là, parce qu'elle, tu sais, elle passe ses hivers à faire autre chose, c'est à ski, puis elle travaille pas du tout dans les jardins pendant tout l'hiver, mais dès que le printemps arrive, elle est en plein dans les jardins depuis toutes ces années-là, puis ouais, c'est comme, pour moi, ça, c'est une relation saine avec comment vivre, tu sais.
Elle qui met autant de temps, puis autant d'énergie, puis qui le fait de façon professionnelle l'été, a réussi-tu à garder le côté amoureux de la chose?
Non, c'est sûr. C'est sûr, tu sais, Maud Hélène, depuis toutes les années, ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 20 saisons qu'on fait? Il y a eu quelques bas, mais tu sais, elle est équanime, elle a toujours gardé un peu sa cadence, elle n'est jamais trop excitée, elle n'est pas découragée quand ça va moins bien. Je pense qu'elle aime vraiment profondément ça, être dehors. Là, elle, passer 3 heures dans la maison, c'est rapidement, ça l'énerve. T'sais. Moi, je suis un petit peu cérébral, t'sais. Moi, j'aime quand même ça réfléchir. Quand j'écris mon livre ou quand j'écris, pour moi, c'est des belles périodes, même si c'est pas très sain au niveau de ma santé, disons. Donc, tu sais, j'ai comme besoin d'être nourri par d'autres choses que le travail extérieur. Mais, tu sais, comme je vous dis, pour moi, il y a un équilibre. Parce que si je suis pas dehors, ou si je suis pas dehors trop longtemps, ou pas assez souvent, là, je sais que mon équilibre, ma santé, puis mon acuité, je sais pas si je peux dire ça, mais tu sais, mon sens de qu'est-ce qui est important puis pourquoi, là, je peux le perdre.
Ta clarté.
Ouais, ma clarté.
On dirait que c'est comme si tu t'étais acheté un chien pour t'obliger à prendre une marche à tous les jours.
Écoute, je dirais pas ça de Maud Hélène.
Non, je parlais de ton jardin.
OK, c'est ça, juste pour qu'on comprenne. Hein.
Hey, on est cave, là, mais pas tant que ça, là.
Mais écoute, c'est une belle analogie. Tu t'achètes un chien pour marcher tous les jours. C'est une super belle analogie. Moi, ouais, puis tu sais, comme là, en ce moment, vous êtes les premiers à qui je vais le dire, tu sais. Je démarre un nouveau projet agricole, une autre ferme. Puis c'est vraiment né de ce besoin-là, justement, d'en avoir plus sur où c'est moi qui fais le travail. Comme là, tu sais, j'ai fait la ferme des quatre temps, le permis ici. Tu mets les mains sur la tête.
Je me prends la tête.
Tu sais, la ferme des quatre temps, quand je l'ai commencé, c'était en 2015. Puis, c'était à une époque où ça faisait évidemment plusieurs années que, à la grelinette, notre système était rodé, que, tu sais, on faisait un copy and paste, un peu un repeat. C'était super, mais moi, j'avais envie d'explorer plein de trucs. J'étudiais beaucoup la permaculture. J'avais vu des fermes à cause de mon livre. J'avais voyagé partout en Europe, aux États-Unis. T'sais, j'avais vu tellement d'affaires que là, je voulais expérimenter. T'sais, là, j'ai fait la ferme des quatre temps, gros projet. Mais t'sais, aujourd'hui, la ferme, t'sais, par la force des choses, puis parce que justement, j'ai été appelé à faire tellement d'autres choses en même temps, à se retrouve à être productive puis performante sans moi. C'était un peu intentionnel de ma part que je l'imagine que si je suis pas là un jour, c'est pas grave, ça continue. Là, c'est devenu si je suis pas là une semaine, c'est pas grave, ça continue. Après ça, si je suis pas là trois mois, c'est pas grave, ça continue. Mais alors, si je suis pas là jamais, ça continue. Fait que c'était comme mon but. Sauf que rapidement, je me retrouve que finalement, ce que j'aime faire, puis tu sais, c'est pas juste d'être présent, c'est aussi de prendre des décisions, c'est aussi d'imaginer d'être créatif, d'attacher les fils, de gérer le rythme de travail. Tout ça, pour moi, c'est ce que j'aime d'être maraîcher, tu sais. Fait que là, long story short, je sentais aussi le besoin de revenir proche de ma communauté, là, tu sais. Je sais que Péa, toi, t'es souvent venu ici, mais on est chanceux, nous, à Frisburg, dans Brome-Missisquoi, là, c'est tellement cool. Puis moi, j'étais à Hemingford, t'sais, 5 jours sur 5, Jean Talon le samedi, depuis plusieurs années. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai envie de revenir aussi chez moi. Donc, le nouveau projet, c'est une table fermière. C'est un jardin maraîcher d'environ un demi-hectare connecté à une table fermière. C'est à 6 minutes de chez
Attends, un demi-hectare, c'est grand comment là, pour le monde comme moi? Les arcs, je reconnais ça. Je sais qu'un arc, c'est genre 45 000 pieds carrés. Un demi-hectare, c'est grand comment?
C'est à peu près un arc, un petit peu plus qu'un arc, okay. Le terrain. Donc, tu sais, ça va être un peu plus petit que la grelinette. Et l'objectif, c'est vraiment de produire tous les légumes qui vont aller dans la cuisine. Puis de servir les gens qui vont venir avec des produits de la ferme au restaurant.
Hey, là, tu deviens-tu chef cuisinier, là, ou tu nous annonces une collaboration tant qu'à y être, là?
Non, moi, je... c'est excitant, hein? Non, mais non, oui. Moi, je suis pas dans la cuisine. Je suis pas dans la cuisine, mais je suis dans l'expérience de quand les gens vont venir au restaurant, ça va être quoi qui va leur être raconté. Ça va être quoi aussi leur expérience, parce que tu vas venir au restaurant, puis... Tu vas pas juste t'asseoir pour manger, tu vas te faire expliquer un menu, tu vas te faire expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière la carte, le produit, rien de nouveau là, sauf que les gens vont pouvoir marcher dans le jardin et mieux comprendre où les choses, t'sais, comment ça pousse ça. T'sais, c'est fou, nous on oublie ça, mais il y a du monde qui savent pas un haricot comment ça pousse, là. Ils ont pas d'idée.
Non, mais ils reconnaissent pas les feuilles. Là. Il y a des gens qui confondent basilic et poivron. C'est des choses qui arrivent. Là. Hey, des fois, on entend parler.
Ben moi, mais moi-même, ma plus belle laitue dans le jardin, c'est ma rhubarbe. Puis elle est écœurante.
Je pense que même que tu peux pas la manger parce que tu pourrais avoir des problèmes avec ton foie.
Ah, ben c'est ça, mes invités, l'autre fois. Non, mais je fais une blague, là, mais j'ai déjà servi des têtes de violon à ma soeur et ses enfants, puis on a tous été malades parce que je les avais pas fait blanchir.
Ouais.
Mais est-ce que ça va être ouvert à l'année, cette table-là?
Oui, ça va être ouvert à l'année, puis ça va être... parce que, tu sais, là, j'ai développé quand même aux quatre temps quand même une belle expertise là, sur faire des légumes en hiver. Mm-hmm. Puis, tu sais, à chaque année, là, pas je m'améliore, mais tu sais, à chaque année, je comprends mieux comment bien le faire, même si c'est pas facile. Et la table, c'est ça, c'est remplir le caveau, c'est d'avoir des verdures dans les serres qui sont peu chauffées, puis c'est d'alimenter le restaurant avec des conserves qu'on a faites en été. C'est vraiment le tu sais, en fait, comme Modélène puis moi, on mange. Tu sais, nous, on a le caveau rempli de légumes. Puis tu sais, encore en ce moment, là, on sort des vieux choux. Puis on se fait des salades de choux, nos carottes, c'est les carottes de l'année passée. Puis, tu sais, on mange bien comme ça. Je pense que les gens qui vont venir au restaurant, ils vont juste réapprendre à manger comme à l'époque. Puis ils vont trouver ça super bon, super inspirant, super intéressant.
Là, t'es après à me dire que tu lances un truc qui va être 100% local, 100% bio, puis 100% saison en plus.
Ouais. Ouais, 100% saison, 100% local, 100% bio pas certifié.
OK.
Ça me tente pas.
OK. On n'ira pas là.
Ben, on peut y aller, tu sais, c'est comme là, je me posais la question ce matin, j'étais comme, OK, là, à un moment donné, il peut-tu avoir une limite à la paperasse qu'il faut faire dans la vie, là, je suis comme, tu sais, ça va être bio, puis je vais juste pas le dire, puis je m'en fous. Tu sais, je vais vendre le produit au restaurant qui est juste à côté, fait que pas besoin d'une certification, vraiment. Ça va me permettre de faire des expériences avec le Paper Pot. Ça me tente. Ouais.
C'est quoi ça, Paper Pot? C'est madame? C'est la madame qui a une cuillère dans le cou, ça?
Non, ça c'est madame Paper Pot. C'est ça, hein, l'émission quand on était petit.
OK. Puis toi, c'est quoi t'as dit?
Le Paper Pot Transplanter, là, c'est, je suis sûr qu'il y a des maraîchers qui écoutent le podcast qui connaissent ça bien, là, mais c'est comme une espèce de... C'est une dérouleuse, si tu veux. Là. C'est pas très gros comme outil, là, mais c'est pour transplanter des semis qui sont enrobés dans une chaîne de papier. Donc, mettons, t'as un plateau multicellule, là, un 128, OK? Puis là, t'as de la coriandre qui est plantée dans chaque cellule 128, mais la cellule est reliée par du papier. Puis quand tu peux comme l'ouvrir, puis là, elle se délie, puis là, ça te fait une ligne. Fait que tes 128, ils sont tous connectés par un papier, puis ça fait une grande ligne, puis là, t'as comme un rang chausseur. Fait que t'as un soc ou sillon. Tu déposes le papier, puis là, ça le ferme en tout. Fait que, tu sais, ce qui prend, je sais pas moi, une demi-heure à transplanter, te prend exactement une minute.
Donc, c'est ton 128, tu le mets dans ta machine, puis là, t'avances avec ça, puis au bout, t'as quelque chose qui est planté à bonne profondeur.
Ouais.
Comment t'appelais ça encore?
Le Paper Pot Transplanter. Je sais pas c'est quoi en français, le Paper Pot.
Bon, c'est souvent le nom qui circule, mais en fait, ce qui est malade aussi, c'est que tu te penches pas, là.
Non, c'est ça, t'es debout.
Fait que ça te sauve un dos, une paire de genoux aussi, là. C'est incroyable. Puis en bio, on peut pas l'utiliser à cause de la colle qu'ils utilisent pour le papier.
Ouais. Ouais, à cause que la colle, elle a pas passé, mais tu sais, elle a pas passé au Canada. Mais tu sais, en Europe, beaucoup de monde l'utilise en bio. Aux États-Unis, tu sais, beaucoup, beaucoup de growers l'utilisent en bio. Donc, tu sais, moi, je suis pas puriste à ce point-là. Je suis comme, tu sais, si je suis capable de me sauver, je sais pas, moi, 200 heures par été, je veux, tu sais, après ça, les papiers, on peut les enlever aussi. Fait que,
ouais.
Il y a beaucoup de, tu sais, moi, c'est quelque chose que je veux explorer depuis plusieurs années. T'sais, j'ai beaucoup d'amis qui l'utilisent, puis c'est malade. Puis à cause que, aux quatre temps, on est certifié bio. T'sais, juste de sortir la machine, là, tout le monde capote. Là. Alors, tout d'un coup, quelqu'un prend une vidéo. Là...
Mais ça, c'est pour les pros. Il y a un peu l'équivalent pour les petits maraîchers comme moi, là, où est-ce que tu as déjà tes carottes, admettons, dans un petit papier. Là. Mais est-ce que je pourrais, sans la machine, opérer ça chez nous, t'sais, défaire le 128 puis allonger ça dans le jardin?
Tu pourrais, mais il n'y aurait pas vraiment d'avantage. Là, c'est vraiment comme nous, on travaille sur des planches de 100 pieds. Puis des fois, quand on fait des transplants, là, mettons des transplants de betteraves, on est sur 5 rangs, 1 pouce et demi, 2 pouces. Ça en fait en crise de la betterave à planter.
C'est tight.
Fait que là, on le fait juste en déroulant le papier. C'est écœurant. Là, c'est vraiment... On gagne en efficacité de façon dramatique.
Hey, moi, j'aime bien, Pierre-Luc, que tu te sois auto-qualifié de petit maraîcher. Fait que c'est hot, hein? T'es un jardinier, puis t'as essayé de faire des transplants de carottes l'année passée.
Ben, c'est petit, ça.
Ouais, t'as-tu déjà vu ça?
As-tu marché?
Ouais, c'est ça la question.
Ben oui, ça a marché. Ben, ça a marché, ça a fait des carottes très, très, très larges puis très peu creuses. Mais tout à fait délicieuses. Si tu regardais pas le papier cul, là... Mais c'était du papier cul bio, hein, en passant. Fait que moi, ça aurait passé.
OK, c'était des transplants que t'avais fait avec du papier de toilette.
Oui, c'est ça, parce que je me disais... Parce que quand même pas très intelligent. Fait que je me disais, la carotte, c'est quelque chose qui est très long. Fait que si je la plante juste dans un 128 qui a un pouce de profond, ben ça fera pas un bon semis. Fait que je l'ai transplanté dans j'ai mis un rouleau de papier de toilette par-dessus mon petit 128. Fait que là, il y avait de la place, mais finalement, c'est jamais allé bien, bien creux. Ça a fait quelque chose de très large.
Hey, le toilet paper pot, man, c'est... Il va falloir que tu fasses breveter ça. Puis peut-être que Growers va décider de lancer la machine puis le reste de l'équipement qui vient avec, là, on sait pas. Là.
Ben, en tout cas, moi, il y a une chose que je suis sûr, c'est que je me ferai jamais voler mon idée.
Ouais. Ouais, mm-hmm. Ouais. Mais tu sais, vous êtes des gens d'affaires, là, toi puis Jean-Martin, là, Pierre-Luc, là. Fait que non, ça, moi, ça roule ici. Ça m'allume, ça.
Écoute, on fait un article sur dans la revue Growers sur le Toilet Paper Pot. Developed, established 2021 Québec.
Bon, tous nos invités à date nous ont dit que c'était cool d'expérimenter, puis de faire des erreurs, puis tout ça. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai fait.
Ouais, mais il faut noter que ça vient de Victo, hein. C'est pas Drummond qui l'a inventé, là. Il y aura pas de conflit comme la poutine, là. Ça, faut que ça soit clair, là.
Ouais, c'est bon.
Est-ce que cette affaire de paper pot, ça rentre dans l'expression... ferme résiliente, agriculture résiliente. J'ai vu ça sur Wikipédia à côté de ton nom, puis je me dis, est-ce que je peux faire un lien entre le pepper pot et le résilient?
Ben oui. Ben, tu sais, le lien, il est loin, là, mais tu sais, dans le fond, tu sais, moi, si on suit justement un peu mon parcours, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de la confusion un peu aussi avec mes messages, mais tu sais, il y a une affaire que je suis toujours été fidèle, c'est, moi, j'ai toujours dit, tu peux cultiver sur une petite surface. Nous, à la Grenouillette, on est une preuve. Il y a tellement d'autres fermes qui ont démontré ça. C'est toujours dans le realm du « oui, c'est possible ». Oui, c'est possible. Après ça, c'est toujours été « oui, mais comment tu t'y prends ?» Puis dans le « comment tu t'y prends », pour moi, la clé, ça a toujours été l'efficacité. L'efficacité des gestes, l'efficacité de l'organisation, bien comprendre les techniques, bien appliquer, avoir les bons outils pour la grandeur travaillée, etc., etc. Fait. Tout pour moi, la clé du succès en maraîchage, c'est l'économie d'énergie, t'sais, l'économie de tout ce qu'on n'a pas à faire. Ça, c'est comme ça qu'on a une qualité de vie puis qu'on on gagne en prospérité, si tu veux. Fait que pour moi, t'sais, le paper pot s'inscrit dans ça, c'est-à-dire comment je suis capable de faire le même travail avec moins de temps, moins d'énergie, moins de main-d'œuvre, si tu veux. Puis, tu sais, j'ai toujours regardé l'aspect écologique. Tu sais, avec le paper pot, je suis quand même assez à l'aise. Je trouve quand même que c'est une belle solution, c'est du papier, tu sais. C'est pas justement du plastique qu'on déroule, là. C'est du papier qu'on brûle ou qu'on recycle ou whatever, tu sais. Moi, c'est quand même cool.
J'ai eu une discussion sur la résilience avec un maraîcher il n'y a pas très longtemps. En fait, j'ai eu deux discussions. Un avec un maraîcher qui venait de fermer sa ferme là, de panier bio parce que exténué. Et puis, il y avait un discours assez négatif là, t'sais, sur avoir une ferme maraîchère puis être en santé mentale. Puis après ça, j'ai parlé de cette discussion-là avec un autre ami maraîcher professionnel qui lui dit non, moi, je suis positif, je suis optimiste. Moi, cette année, c'est mon mot, la résilience, c'est ça qui est le plus important, puis je travaille là-dessus, puis c'est comme ça que je vais aller jusqu'au bout de mes affaires. Puis là, ben lui, 6 mois plus tard, il est en burn-out. Fait que tu penses quoi de comment on fait pour garder sa santé mentale dans tout ça quand on veut faire des paniers bio? Est-ce que c'est difficile?
Ben, la réponse, c'est oui. Après ça, tu sais, cette réponse-là est importante parce que, premièrement, faut placer les choses dans un contexte plus large. Si on vient vivre une pandémie, ça a des répercussions sur nos santé mentales, pas juste en maraîchage, là, tu sais, sur beaucoup, dans beaucoup de domaines. Tu sais, on a vécu plein d'épreuves, on s'en est peut-être même pas rendu compte, mais ça nous a affecté plus qu'on l'imagine. Après ça, tu sais, le défi à faire des légumes bio puis du maraîchage, c'est vraiment la rentabilité qui est jamais garantie. Tu sais, comme moi, dans d'autres corps de métier où je travaille, on fait des rencontres, on discute. Ah, c'est intéressant. OK, on va remettre ça à la semaine prochaine. Puis, comme en maraîchage, là, si tu ramasses pas les carottes, là, si y a juste pas d'argent qui rentre dans le compte de banque demain, là, c'est do or die à tous les jours. Tu peux pas avoir de temps mort puis tu peux pas dire, ah, ben, je vais remettre ça à la semaine prochaine. Puis mon petit désherbage, là, je suis pas tout à fait enligné, là. Fait que je vais remettre ça plus tard. C'est comme non. Désherbage, c'est si tu l'as pas fait hier, t'es dans le mal. Fait que, tu sais, il y a cette pression-là, si tu veux, de toujours produire, de toujours livrer, qui est inhérente au métier. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était ça qui faisait que c'était un beau métier aussi. C'est qu'on n'est jamais dans le superficiel, on n'est jamais dans le flou, on est toujours dans l'exécution. Puis ça, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Puis rapidement, si tu t'étais imaginé plein de choses sur un mode de vie dans la nature, je pense que toi, PA, tu connais ça plus que moi. Tu t'étais imaginé des scénarios où est-ce que tu te voyais en train de faire ça, puis tu comprenais l'importance du métier, l'importance de nourrir les gens, tu comprends tout ça, mais que foncièrement, toi, personnellement, t'es pas une personne qui aime ça vivre la pression, que t'es pas une personne qui aime ça avoir des horaires serrés, puis d'être obligé de travailler plus que pas assez. Mais c'est peut-être pas fait pour toi, tu sais.
Ça, c'est une prise de conscience que quelqu'un doit faire rapidement là, avant de se lancer là-dedans. Là. Parce qu'en plus, si tu te lances, tu mets un peu ta tête sur le bio, c'est des économies des fois d'une vie que des gens prennent un risque là, finalement. Là. Puis les lunettes roses, il ne faut pas les porter trop longtemps. Puis moi, je te l'entends le dire souvent, ce discours-là, Jean-Martin, puis je te remercie de le faire. Là. Parce qu'on sait des fois qu'un show de télé va amener un côté plus bucolique à la chose, mais pour t'entendre sur d'autres tribunes, je pense que le message il est assez clair. Mais les élèves, quand on leur mentionne ça, ben, des fois, ils veulent pas le recevoir, ce message-là, puis ils pensent que la vie va être belle, les papillons vont venir, puis ça va être chouette, là, mais rapidement, l'efficacité, la rentabilité, c'est les cours de gestion que je répète souvent qui sont les plus importants. Trouver l'équilibre là-dedans. Puis l'efficacité, c'est pas une question de mettre du cash plus dans ses poches, mais c'est peut-être justement de pouvoir passer un peu de temps en famille ou voir un peu des amis, puis pas continuer à désherber jusqu'à 9-10 heures le soir, puis recommencer le lendemain matin à 5 heures. Là.
Mais non, ça, c'est un bon exemple. T'sais, comme moi, honnêtement, les gars, ça fait au moins 15 ans, là. C'est pas d'hier, là, que nous, c'est 8 à 5. Les horaires de travail, puis il y a une raison à ça, là. C'est pas juste parce qu'on est fortuné, puis c'est qu'à un moment donné, il y a deux choses qui se font quand tu fais ça. La première, c'est que tu priorises en crise ce qu'il faut qu'il soit fini à la fin de la journée, parce qu'à 5 heures, t'arrêtes. Fait que c'est comme, on arrête de niaiser avec tout ce qu'on fait, là, puis c'est comme, OK, ça, si, il faut qu'on finisse la job, parce qu'à 5 heures, on arrête. Puis ce push-là, à la fin, il est important pour rapper les affaires. C'est comme un peu des deadlines de fin de session, là, si tu n'en mets pas un deadline à tes étudiants, ils n'aboutiront jamais. T'sais. Fait que ça, c'est super important. Puis la deuxième fois, tu viens de le nommer, PA, c'est si tu veux avoir un équilibre de vie, ben, il faut que ta vie de maraîcher soit meublée de d'autres choses que juste travailler. Il faut que tu fasses de la place pour d'autres choses, tu n'as pas le choix. Mais ça, pour moi, c'est une évidence. Puis peut-être, tu sais, je dirais, à la grelinette, on est arrivé à cette conclusion-là, peut-être à l'an 4, l'an 5 max, je me souviens plus trop, ça fait quand même longtemps. Mais tu sais, rapidement, on a découvert que, premièrement, on réussissait à faire plus de choses dans une semaine. Puis là, on a commencé à avoir une belle qualité de vie. Parce que là, on avait un meilleur équilibre. Mais c'était juste parce qu'on avait adopté cette simple stratégie-là, c'est-à-dire, le début de la journée, il est toujours à la même heure. Puis il y a une fin, puis c'est toujours la même heure. Puis comme là, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui écoutent ça puis sont comme « Oui, mais je suis j'ai formé quand même, c'est au moins 80 maraîchers qui utilisent ces idées-là avec beaucoup de succès. Fait que c'est comme... Tu sais, à un moment donné, ça pourrait être cool que les gens écoutent des conseils comme ça puis peut-être l'essayent. Tu sais, ça coûte pas grand-chose de dire « Essaye de rapper ta journée tous les jours à la même heure. » Vois qu'est-ce que ça donne, tu sais.
Puis tu sais, comment dire, t'as pas le choix de désherber, mais toi, en plus, avec Maud-Hélène, vous avez élevé votre famille puis vos enfants là, au travers de ce démarrage-là puis de cette aventure-là. Puis t'as pas le choix aussi de t'occuper de tes enfants, là. Fait que ça, c'est un game changer de fou, là, quand tu te mets à avoir des enfants, là. Puis il y en a beaucoup que c'est en démarrage, en plus, que ça arrive, là. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une pierre angulaire, là. T'as pas le choix, c'est incontournable. Puis on les aime, tu sais, on revient à l'amour, là, tu sais. Tu peux pas ne pas voir tes enfants grandir.
En instaurant cette technique-là, qui dit « je commence à 8, je finis à 5 », absolument, j'imagine qu'il y a des choses que tu dois lésigner. Y a-t-il des choses que tu fais « OK, ben ça, je le fais plus parce que de toute façon, c'est pas rentable au niveau du temps. »
Mais c'est pas tant que, tu sais, parce que sur une ferme, il y a toujours plus à faire. Là. C'est éternel. Tu peux travailler 24 heures sur 7 tout le temps. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui pourrait être avancé, qui pourrait être optimisé, tu sais, une job qui pourrait être faite en ce moment. Fait que, tu sais, c'est le travail d'un maraîcher, c'est beaucoup de rationaliser ses énergies. Est-ce que je désherbe là ou pas? Est-ce que je plante, tu sais, mes semis aujourd'hui, demain ou après-demain, puis pourquoi? Est-ce que je mets un tunnel chenille? Parce que, tu sais, c'est beaucoup des questions de jugement que tu dois faire régulièrement. Contrairement à des maraîchers conventionnels où c'est comme, on plante un champ de poireaux, parfait, tracteur part, tout est seté up, et lui, il plante, tu sais, pendant 4 jours, il plante des poireaux. Tu sais, c'est en maraîchage sur petite surface, c'est pas ça du tout, là. C'est juste des décisions qu'on prend tout le temps. Puis, l'idée de rapper la journée, c'est que ça te force à juste peut-être prendre moins ton temps sur des... Tu sais, tu peux gosser sur ton tracteur. OK, ben là, je vais aller au Napa chercher la pine qui manque. Là, je prends une heure pour la pine. Tu sais, c'est comme... Si tu sais qu'à 5 heures, le chantier est fini, peut-être que tu vas juste trouver une autre solution que d'aller chercher la pine chez Rona puis de gosser avec ça. Tu vas peut-être juste pogner justement un motocutteur et dire, OK, mais cette planche-là, si j'acclenche au motocutteur, laisse faire le tracteur, puis let's go, on plante. Tu sais, parce que tu as cette idée-là que il faut que ça avance, tu sais, parce que tu as une fin. C'est un peu le même que je le vois, moi.
Ah non, c'est bon. C'est comme quand on starte un chantier à la maison puis que ça fait partie de tout le reste de la vie. Il faut que ça roule. Ou quand on fait un jardin hyper productif, là, t'as full tomate, ben, tu vas essayer de trouver des solutions pas épernes puis les passer, là.
Est-ce que je comprends que t'as des enfants, Jean-Martin?
Ouais, j'ai deux enfants. J'en ai un grand de 18 ans puis une belle grande de 13 ans. Puis, tu sais, mes enfants, là, moi, je suis dans une autre partie de ma vie avec Maud Hélène. Nos enfants sont grands, ils ont plus besoin de nous tout le temps.
Puis ça jardine-tu, ces beaux grands-enfants-là?
Non, ça jardine ni un ni l'autre. Ça passe... Hey, ma grande, elle passe beaucoup de temps sur son fucking iPad, là, si je capote ma vie. Je sais qu'elle m'écoutera pas, fait que je peux bien en parler. Puis mon grand, il a travaillé plusieurs saisons avec moi là, à la ferme Quatre Temps. Ouais. Il était bon, là. C'est un bon maraîcher, full en efficacité, full performant, il est vraiment né là-dedans. Mais c'est drôle, hein? Lui, ce qui l'intéresse, c'est la business, la gestion des affaires, l'administration, la finance, il capote sur les bitcoins, puis c'est comme tout le contraire de ce que Maud Hélène puis moi, on imagine qu'est le futur là, sur la Terre. Là.
C'est ça l'adolescence, hein?
Ouais, mais en même temps, je le trouve beau là-dedans, il est passionné de ça, il a les bonnes valeurs, il mange bien. T'sais, il sait c'est quoi un bel équilibre parce qu'il a grandi avec un bel équilibre. Fait que il peut bien aller explorer plein de trucs. Moi, je trouve ça bien correct.
Mais lui, quand il va avoir sa maison, il va avoir un jardin en arrière, tu penses?
J'écoute. Je le sais pas. Mais peut-être. Tu sais, souvent, je sais pas si vous avez remarqué, vous deux, t'sais, en vieillissant, on se rapproche un peu de comment nos parents étaient finalement.
Ouais. Ouais, après avoir fait le contraire pendant 20 ans.
Et puis moi, ça me fait peur. Là.
Ben oui, c'est sûr. C'est moi aussi. Sauf qu'en même temps, tu sais, c'est une autre époque, mais on n'est pas si différent que ça. On est plus. Je pense qu'on s'est fait plus. Tu sais, on a plus été crafté, je ne sais pas ce qu'est le mot français, là, mais plus façonné qu'on pense par la présence de nos parents au quotidien, tu sais.
Hey, écoute, moi, je suis content, il ne m'écoutera pas, là, mais ça me fait peur de devenir bougon comme lui là, plus tard, tu sais, puis changer de cap au niveau politique, puis voter pour des drôles de partis que je nommerai pas. Mais c'est quand même, tu as raison, tu sais, finalement, on leur ressemble un peu plus. Mais ton père n'était pas dans les finances de mémoire aussi? C'est peut-être un saut de génération.
Mon père, il avait fait un MBA plus tard dans sa vie. Je pense qu'il devait avoir 46 quand il a fait son MBA. Mais lui, il était en gestion d'entreprise. Donc oui. Mais Forêt, lui, mon garçon s'appelle Forêt, c'est vraiment la finance. Là. C'est vraiment les chiffres. C'est très particulier comme intérêt. D'ailleurs, lui, il trouve ça, c'est vraiment pathétique comment moi j'opère. Parce que moi, je suis une personne que l'argent, pour moi, c'est ça rentre, ça sort, c'est dynamique, tu sais, c'est... On est toujours en créativité en train de la faire rouler, tu sais, lui, il est comme, mais non, papa, là, tu sais, tu peux pas ne pas regarder combien les choses coûtent, là. Faut que tu écrives ça dans ton cahier. T'sais, lui, il serait du genre à tout écrire ses dépenses dans un cahier. Je suis comme, moi, je ferais jamais, jamais ça. La dernière affaire que je veux savoir, c'est combien ça m'a coûté.
De toute façon, faut que je finisse à 5 heures, là. Fait que c'est là-dedans, je vais couper, là.
C'est ça, let's go. J'ai pas le temps de prendre les notes.
Ah, mais ça pourrait te faire un bon acolyte, là. Parce qu'avec tous les modèles d'affaires que tu développes, veux pas un moment donné des ramifications, mon gars, tu dois en avoir une puis un autre, là.
Moi, ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'ils aillent dans des bonnes écoles commerciales puis qu'après ça, qu'ils reprennent, qu'ils me reprennent en main.
Ouais, c'est ça. On reste dans la gestion, pareil, tu sais, ça boit du maraîchage, là. C'est quelque chose. Puis ben là, c'est ça, t'es rendu avec Growers & Co. Il y a la revue que les gens connaissent bien aussi, là, les outils. Puis j'imagine que t'as encore d'autres surprises, là, dans ce créneau-là qui s'en viennent, je sais pas.
Ministre de l'Agriculture.
Ah ben non. Mais non, ça c'est ça. Non,
pourquoi pas?
Ça, Pierre-Luc, je te confirme que c'est non.
Bon, attends un peu. Steven Guilbeault, il a sûrement dit la même affaire.
Non, Steven Guilbeault, il y a une grosse différence entre lui et moi, c'est que lui, il est capable de se faire critiquer puis de s'en crisser. Puis ça, c'est vraiment important quand t'es en politique parce que tu vas te faire critiquer, tu vas te faire jouer des pièges, les gens essayent de te descendre, tu sais, il y a comme...
C'est la game.
Tu sais, ouais, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que t'arrives là, pas juste avec des convictions, mais des convictions et une certaine carapace, parce que les gens vont pas t'atteindre quand ils te dénigrent publiquement dans les médias ou etc.
Fait que toi, planter, c'est correct, mais te faire planter, non.
Non, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours trouvé ça difficile, puis... Tu sais, je suis capable de mettre les choses en perspective, tu sais. Je me dis, OK, les gens comprennent juste pas, mais... J'ai pas cette attitude-là de juste comme bloquer ça puis faire comme, OK, moi j'ai mes idées puis j'avance. Parce que c'est ça qu'il faut en politique. T'sais. Moi, je suis une personne, j'aime ça le consensus, j'aime ça la rencontre, j'aime ça être à l'écoute des gens, j'aime ça avancer comme équipe. Aux quatre temps, on a toujours travaillé avec l'idée que on est vraiment dans un modèle de gestion un peu participatif. En tout cas, des années où moi, j'étais vraiment impliqué plus. Fait que, tout ça pour dire que c'est ça, la politique...
Mais toi, ça t'arrive de t'adresser aux politiciens, des fois? T'as-tu déjà des contacts avec ce monde-là? Est-ce que t'essaies d'avoir une influence sur eux?
Oui, j'en ai une assez importante, assez pesante. J'ai trouvé ça... À l'époque où, tu sais, oui, j'avais une action politique, là, j'avais un agenda, il y avait des choses que je faisais pour faire avancer des dossiers. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose là-dedans qui me nourrissait pas, tu sais. Par exemple, tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le programme pour les serres. Tu sais, on a un beau programme au Québec en ce moment où est-ce que le gouvernement paye jusqu'à 60-70% là, pour l'achat de nouvelles serres. T'sais, moi, j'ai beaucoup œuvré pour que le programme soit admissible pour toutes les petites fermes maraîchères. Pas juste les gros, tu sais. Parce que là, on parlait de souveraineté alimentaire. Puis, tu sais, il y avait tout un calcul politique qu'il fallait que soit fait pour que le ministre et ses équipes comprennent l'importance d'inclure les petits dans le mandat aussi. T'sais, moi, j'ai vraiment travaillé pour ça. Mais c'est ça, ça revient à tantôt. C'est comme, mais tu fais ça dans l'ombre. Puis après ça, t'es le premier à te faire critiquer pour plein d'affaires. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, mais je vais juste m'occuper de ma famille, puis, tu sais, je vais m'en acheter une sœur, là. Tu sais, à un moment donné, la limite de qu'est-ce que tu veux faire pour les autres, moi, je l'ai atteint, puis je suis comme, OK, j'aimerais ça m'occuper de mes affaires plus, tu sais.
Ouais, mais en même temps, tu sais, comment dire, par défaut, t'es devenu une personnalité publique. Il y a un porte-parole aussi du mouvement bio. Mm-hmm. Je me souviens quand tu avais fait ton passage à Tout le monde en parle, le lendemain des paniers, le réseau des fermiers de famille n'a vendu un puis un autre. Là. Fait que ça amène des belles retombées quand même pour le secteur. Là, t'es pas en politique, mais comme personnalité publique, on s'entend que la critique, des fois, tu dois en manger un peu aussi. Puis te connaissant, ça doit t'affecter. Là, tu sors un nouveau produit, là, la salopette Grower Jean-Martin, là, parle-nous-en. Là. C'est ça.
C'est ça. Comme tu sors une salopette parce que tu te dis, crime, il me semble, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des bons vêtements pour quand je suis dans le champ. Puis là, on les fait. Puis là, tu sais, ça rouspète en disant que c'est trop cher. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas là que ça. c'est pas là que ça m'atteint, parce que ça, je me dis, regarde, t'as bien le droit de chialer, puis si t'avais pas à salopette, achète-la pas, puis c'est bien parfait. Il n'y en a pas de problème. Mais quand on est dans une action politique, tu sais, il y a aussi des jeux de coulisses. Des jeux de coulisses, ça, c'est moi, c'est je suis moins... Tu sais, comme là, plus j'avançais avec une action politique avec le ministre, que moi, j'estime qu'il avançait pour des bonnes raisons, et là, tu voyais que les autres partis m'approchaient. Puis là, il y avait quelque chose que... Puis moi, je sais pas, j'étais comme... Je trouvais ça un peu malsain, comme... Je sais pas, c'était juste pas mon... Moi, je suis un entrepreneur avant tout, finalement. Tu sais, je suis un gars qui a de projets, j'aime ça, avancer des idées, des projets. Oui, tu le dis, PA, je suis une personnalité publique, puis je veux me servir de ça pour faire avancer, tu sais, le réseau des fermiers de famille, puis ce qu'on fait, puis ce qu'on aime. Mais, tu sais, il y a une limite à mon dévouement, tu sais.
Ouais, ben, faut que tu restes résilient, Jean-Martin.
Yes!
C'est ça la clé, fait que...
C'est pour ça que la salopette, elle a des genouillères, pour pas s'abîmer le dos.
Merci pour la pub, on est content de la partager. Moi, je porte la casquette fièrement en ce moment, le t-shirt, c'est des vêtements très confortables.
J'aimerais rester encore une petite shot sur le terrain politique, si vous le permettez.
Ouais.
Quand on parle de maraîchage et de politique, on pense aux ceux qui font des paniers, tout ça. Je me demande si y a, j'ai pas d'idée de réponse, là, je suis juste curieux de vous sonder là-dessus. Est-ce que par rapport au petit maraîcher, au petit jardinier qui fait un 5% d'autosuffisance là, avec son jardin, est-ce que politiquement il pourrait y avoir quelque chose qui se fait pour ce monde-là? Y aurait-il une manière d'encourager la micro-autosuffisance alimentaire au niveau systémique, vous pensez? On fait partie de la solution quand même, là, les petits jardiniers résidentiels?
Mais oui. Mais non, c'est sûr. Toi, tu parles, là, t'es pas dans le maraîchage. T'es dans le jardinier amateur qui fait son jardin chez eux.
Exact, exact. Qui fait sa sauce à spag.
Tu sais, ce que je vais dire, c'est que c'est peut-être un peu controversé, puis je dis pas que j'ai raison avec ça, c'est juste ma perspective à moi. C'est, tu sais, non plus, faut pas penser que c'est au niveau politique que tout ce qui va avancer, ça va passer par là, tu sais. Comme... Moi, j'ai une émission de télé en ce moment où on montre aux gens comment faire des potagers, puis on dans cette émission-là, c'est plus qu'un jardin. Mon intention avec ça, c'était d'encourager les gens à en faire des jardins, puis à leur montrer comment. Moi, je trouve que ça, ça a le plus d'impact que si on avait dit, OK, on vous donne 500$ par famille qui font un jardin, vous allez avoir un chèque dans... Ça, pour moi, ça vaut rien. Parce que ce qu'il faut, c'est créer une vibration, créer comme une émotion pour que les gens embarquent là-dedans. Puis au niveau politique, créer de la vibration puis de l'émotion, là, honnêtement, à mon avis, c'est pas là que ça se passe, tu sais.
Ben, il y a de la vibration puis de l'émotion, mais pas toujours positive, là.
Non, tu sais, au niveau politique, on va encadrer des choses, on va mettre des limites sur certaines choses, on va faire la juste part, mais tu sais, au niveau de créer un mouvement, ce que tu décris là, moi je pense que ça passe pas mal plus par des initiatives citoyennes, par aussi la culture populaire, tu sais, la culture un peu de masse, si on veut, là.
Ouais. Ah non, mais
de rendre ça cool d'être jardinier, tu sais.
C'est que t'as pas pris la balle au bon de dire, ah, la grelinette, elle pourrait être déductible d'impôts, là. Fait qu'on est retourné dans l'amour, là, finalement, là. Moi, j'aime ça. Puis,
ben oui.
On va se le dire, cette émission-là est merveilleuse. L'émission Les fermiers aussi était géniale. Moi, j'en aurais pris plus. J'aurais pris une saison 3, une saison 4. Mais c'est plus qu'un jardin. Là, on est déjà à deuxième saison. Peut-être qu'il y a une troisième saison qui s'en vient dans les livres. Mais c'est formidable de voir à quel point, sur des terres fertiles, en banlieue de Montréal, on est capable de sortir du stock. Puis,
c'est fou, là.
C'est hallucinant, là.
C'est fou, le jardin où on est à Belle-Oeil, là, c'est comme tu dis, là, c'est sur le bord du Richelieu. Le champ de Belle-Terre, belle exposition, là, je veux dire. Puis ça, c'est un parmi des milliers, puis des milliers, puis des milliers de lots. Là. C'est beau là, comme idée de dire, hey, si chaque banlieue, chaque maison de banlieue produisait au moins une partie de ses légumes, hey, de la résilience, il y en aurait. Tu sais, honnêtement, les gars, quand on regarde à travers l'histoire, s'agit juste qu'il y a une crise majeure, une pénurie, ou puis c'est ça qui arriverait là, demain matin, là, les gens ils arrêteraient pas de... T'sais, si l'épicerie était vide, c'est sûr là, qu'il y a tout le monde jardinerait.
Mais il y en a déjà beaucoup qui le font. Des fois, on n'en est peut-être pas si conscient que ça. Je sais que la gang à Éric Duchemin, à ULAB, là, que tu dois connaître, Jean-Martin, se sont mis à scanner un peu par satellite les superficies en jardin.
Ouais.
Puis les données là, qui sortent de là, là, c'est quand même beaucoup d'hectares. Là, une fois qu'on les regroupe tous ensemble, ces jardins-là qui existent, là. Moi, ça me motive là, à y aller de l'avant. Puis l'idée du podcast auquel on t'a invité aujourd'hui, c'est un peu ça quand on l'a lancé, moi, Pierre-Luc. C'est juste d'amener une touche professionnelle avec des bonnes connaissances pour bien réussir. Ton chum Danny l'a très bien fait avec un outil comme l'Académie potagère qui est génial, vers qui je réfère oui. plein de monde. Puis c'est plus qu'un jardin, vient nourrir, tu sais ça, c'est un mouvement-là. Mais là, les gens, la difficulté, eux, c'est que quand ils ont fini leur 8 à 5, là, il faut qu'ils rentrent dans le jardin faire leur heure ou deux d'ouvrage, puis que là, eux autres, ici, il faut que le désherbage soit bien fait. Là. C'est un beau défi, là, pareil, pour eux. Hein.
Ouais, c'est sûr, c'est un beau défi. C'est là que la thérapie, tu sais, de travailler la terre, ça devient intéressant. C'est-à-dire, honnêtement, pour décompresser de ta journée, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça, là, d'aller dans ton jardin, faire un peu de ménage. Tu sais, faire du ménage, c'est thérapeutique, là, mais tu sais, OK, je vais nettoyer mes affaires, je ramasse ici, je ramasse ma salade pour le souper. Écoute, une petite demi-heure par jour, là, ça peut-tu faire du bien qu'un peu? T'sais, c'est sûr que s'ouvrir une bière sur le perron puis checker le soleil, c'est cool. Mais t'sais, on le sait, les gars, si c'est juste ça qu'on fait pour relaxer dans la vie, t'sais, c'est pas bon. Fait que d'avoir peut-être un jardin, c'est une bonne idée.
Hey, mais ça, c'est ça qui manque chez Growers. Un support à bière. Genre
dans
une ceinture, là, tu sais, ta salopette ou autre, là, t'as ta binette, tu sarques, mais tu mets ta petite bière aussi. Ouais, non, ça, tu peux faire les deux, tu sais.
Ben oui, tu peux faire les deux, écoute. Tout est dans tout.
Une binette, là, qui fait que ça pompe la bière en paille à chaque fois que tu donnes un coup, non?
Mais c'est quand même cool, hein, parce que, tu sais, moi, avec Growers, c'est mon but, c'était d'introduire ces outils-là à toute la communauté, justement, des gens qui font des potagers, tu sais, puis leur dire, regarde, une grelinette, ça, tu connaissais peut-être ça, mais après ça, tu sais, une binette oscillante, tu sais, est-ce que tu connais ça, puis est-ce que tu comprends que t'as pas besoin d'être penché à genoux pour faire ton désherbage? Tu peux le faire avec le dos bien droit, puis le bon outil. Puis, tu sais, ça, je trouve ça vraiment le fun, parce que dans le fond, là, tu t'amènes un peu le jardinage plus loin. Parce que, tu sais, les outils classiques, le râteau, la pelle, blablabla, les truelles, mais à un moment donné, tu sais, on est capable d'amener le jardinier plus loin dans sa réflexion, tu sais, ses rotations de culture, ses espacements, comment aménager son jardin, faire des légumes en hiver, dans ton abri tempo. Tu sais, ça, là, il y a beaucoup à faire, là. Puis dans le projet que je vous parlais en début de show, là,
la table.
Dans le jardin maraîcher où est-ce qu'il y a le restaurant, il va y avoir aussi de ça, là. Ça va être une échelle où un jardinier amateur va quand même pouvoir venir faire comme, OK, je serais capable de reproduire ça chez moi.
Même les légumes en hiver?
Oui, ben oui, les légumes en hiver...
On peut-tu en parler un peu techniquement? Là, ça ressemble à quoi, là, moi, chez nous? Là, j'aimerais ça étirer la saison jusqu'en janvier. Je fais que tu me conseilles quoi? Je commence par quoi?
Ben, tu trouves un abri tempo, puis tu le mets en arrière. Tu vas probablement vouloir te creuser un petit pourtour là, pour isoler un peu au moins un pied. Puis après ça, il faut juste que tu trouves une matière, une façon de chauffer. T'sais, ça peut être des fils chauffants, chauffe-gouttière, ça peut être de l'eau chaude avec une petite bouilloire électrique. Même système que tu aurais pour chauffer une piscine, peu importe. Là, t'sais. Il existe plein de petites solutions comme ça.
Pour chauffer le sol, pas l'air.
Oui, chauffer le sol. Dans le fond, traditionnellement au Québec puis ailleurs, ce qu'on faisait, c'est ce qu'on appelle des couches chaudes. Donc, tu sais, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait, c'était pas des serres, là, c'était des châssis, c'était des petits abris avec des fenêtres qu'on faisait, mais on mettait du fumier chaud. Puis là, tu creusais deux pieds, tu mettais un pied de fumier chaud, puis après ça, tu remettais un pied de bonne terre, puis là, tu plantais là-dedans, puis le fumier, lui, il chauffait, puis vu que c'était couvert par une fenêtre, par un châssis, tu gardais ta chaleur. Tu sais, ça, écoute, Moi, j'ai des photos, là, des archives, là, des fermes maraîchères de plusieurs hectares. Là, on nourrissait Montréal comme ça en grande partie.
Ou le vidéo de l'abbé Proulx, là, à la Pocatière.
Oui.
Et le printemps arrive et c'est le temps de réinstaller les couches chaudes. Vous sortez le fumier, vous en mettez deux pieds. Ah non, mais c'était grand, mon gars. Hein? Il y en avait, là, pareil. Là.
Ouais, c'était débile. Puis c'est, écoute, ça marchait au fond. Là. Puis là, après ça, les couches chaudes, le fumier a été remplacé par l'eau chaude. Dans des systèmes. Puis là, après ça, les serres modernes sont éventuellement arrivées. Puis là, chauffer de l'air avec des serres, ça coûtait tellement pas cher à une époque que tout le monde a migré vers chauffer des serres avec du propane. Puis ça, c'est début des années 60, 70, 80. 80, il y a eu une remise en question parce que là, le coût du fuel a augmenté. Puis le prix des légumes a jamais cessé de diminuer à cause de l'importation. Donc là, il y a eu, tu sais, des approches un peu différentes pour dire on peut chauffer mieux. Puis on est encore là-dedans. Mais à la base, si on recule de 50 ans, l'idée de chauffer un gros volume d'air pour faire pousser des légumes qui sont au sol, c'était pas ça, c'était comme, c'est ton sol qui chauffait un petit volume d'air où les choses étaient plus proches. Puis avant ça, les gens creusaient 4 pieds, puis c'était la chaleur qui était présente dans le sol qui chauffait des légumes. T'sais, moi, j'ai vu des photos où est-ce que c'est des citronniers qui sont plantés à 6 pieds dans le sol, puis ils ne gèlent pas. Puis là, il y avait des citrons. Fait que tu sais, là, il y a comme plein d'affaires trippantes. Ouais, au Québec. Fait que tu sais, c'est comme, c'était une époque où il n'y avait pas d'alternative. Fait que quand tu arrivais avec un citron, là,
au Québec?
C'était hot, là. Mais oui, tu sais, c'était comme, yes, j'ai mon citron, tu sais.
T'étais le dieu.
C'était Noël.
Ben oui.
Ah, c'est de là que ça vient, l'orange à Noël, OK.
C'est même pas un orange, c'est un citron, finalement.
Ouais.
Ah, mais tu vois, t'es revenu au jardinage, c'était excellent, ça. Puis, d'habitude, quand t'écris un livre, je suis tellement heureux parce que ça m'envoie plein d'élèves. Mais là, à cause de ton dernier livre, Le maraîchage nordique, je suis obligé de justifier pourquoi qu'on chauffe au propane nos serres de tomates l'hiver. Fait que là, je t'en veux. Là, on va être obligé de s'adapter.
Mais là, à côté, t'as le CETAB qui travaille sur un beau projet de légumes en hiver.
Oui, je le sais. On les adore d'ailleurs. C'est malade. T'sais. Mais c'est vraiment hot comme utilisation d'adapter un calendrier. La tomate, elle se fait pareil. Là, elle se met en février, mais tu dois arrêter quoi? Septembre, mi-septembre pour implanter ton stock début octobre, le plus tôt possible?
Oui, c'est ça. Le plus tôt possible. Fait que si tu étais capable d'avoir assez de serres pour être début septembre, c'est mieux.
Mm-hmm.
C'est mieux, sauf que
On parle de quoi? De planter tes tomates en début septembre?
Non, c'est légumes d'hiver.
C'est ça. Tous tes légumes d'hiver, là, tu vas avoir des épinards, tu vas avoir même certaines laitues qui sont vraiment mieux résistantes au froid. En fait, nous, on fait jusqu'à 30 légumes différents en hiver. Dans ces légumes-là, il y en a à peu près 10 que t'as pas besoin de chauffer. Les autres, ils vont survivre, puis tu vas avoir des rendements. Puis t'en as d'autres que tu vas chauffer à 2 degrés. Puis t'en as d'autres que si tu chauffes à 6-7, là, t'as vraiment plus de résultats. Tu sais, ça dépend des légumes. Mais à la base, l'idée, c'est que t'as une serre qui te protège du froid, des intempéries. Fait que tu sais, quand ils ventent pas en dedans. Puis quand il fait soleil, la serre, il fait très chaud, ça réchauffe le sol est en masse thermique. Puis le soir, on vient puis on abrille le sol avec des couvertures. Fait que là, on a le radiant du sol qui est en dessous de ta couverture, puis c'est ça qui donne plus de chaleur. Mais la prochaine étape, c'est de dire, on a une source chauffante dans le sol pour être capable de vraiment faire en sorte qu'on capture la chaleur, même quand il fait pas soleil.
Tu peux quand même avoir une batterie thermique, j'imagine.
Exactement.
Une grosse masque.
Le jardinier amateur, le patenteux, le bisouneux, tu sais, name it, là, il est tout aussi... Tu sais, il va trouver une solution peut-être meilleure qu'un maraîcher, que lui, c'est sa rentabilité qui compte en bout de ligne. Il faut que ça soit payant. Tu sais, comme, tu sais, on en voit des fois dans des gens qui chauffent leur piscine là, avec des tuyaux noirs, puis là...
Ouais.
Ils vont crazy, là, puis là, il est rendu que le tuyau noir, là, il est rendu partout, là, tu sais. Mais c'est hot, ça.
Fait que ça... Non, mais t'as raison.
Fait que tu mets ça, tu as tes tuyaux noirs, tu te pompes, tu mets ça dans ton sol, t'as ton abri tempo, let's go, t'es à 5 degrés à l'année longue. T'sais.
Fait que la créativité, elle a sa place autant pour le maraîcher que le jardinier, là. C'est hot. Là.
Ouais, c'est très hot. C'est... Le défi, c'est d'avoir des arbres fruitiers en hiver.
Ouais, ça, ça fait rêver aussi. Là. Il y a d'autres méthodes là, qui peuvent être intéressantes, là.
Ça va prendre des mouches en hiver aussi, là, ou des papillons, des abeilles pour butiner tout ça en hiver? Ou tu vas au pinceau?
Qu'est-ce que tu veux dire au pinceau?
Ben, tu butines chacune de tes fleurs une après l'autre avec un petit pinceau.
Ah, mais c'est pas tous les légumes ni toutes les arbustes qui ont besoin d'être pollinisés.
Ah, OK.
Ni pollinisés de la même manière, mais c'est sûr qu'il y a des écosystèmes qui se développent, mais tu sais... Moi, j'entrevois, les gars, un futur proche où on réfléchit comme ça. C'est-à-dire que moi, ici dans ma maison, j'ai une immense verrière sur le mur sud de ma maison. Puis là, dans des pots, j'ai des arbres fruitiers. Tu sais, je serais capable d'avoir des légumes aussi qui pousseraient chez moi. Puis, tu sais, j'ai un plancher radiant avec de la brique. Puis j'ai un poêle à bois. Tu sais, ça me coûte pas si cher d'électricité pour avoir une pas pire grosse verrière qui est connectée à ma maison. Mais tu sais, ça là, c'est pas nouveau là. Tu sais, si tu regardes là, des maisons de France du 19e siècle, là, tout le monde avait son orangerie. Puis je pense qu'on va revenir à des idées comme ça honnêtement.
Ouais, puis avoir un caveau peut-être aussi, là, ce qui a sorti des maisons modernes.
Avoir un caveau.
Mais que les anciennes l'avaient, là.
Exactement.
Ça a été perdu, là. Puis ça manque aux jardiniers, justement, qui veulent faire la conservation. Parce que c'est la méthode la plus simple de conserver du stock, là, aussi. Là. Fait que, c'est cool. Merci pour l'inspiration. Le livre, là, c'est le maraîchage nordique, là, qui est très technique, là, d'un sens, là. Mais je te connais avec ta passion pour la littérature, pour les livres, mais les illustrations aussi, puis la façon qui a été éditée, là. Le contenant comme le contenu, là, c'est une belle œuvre, là. C'est beau.
Ben, merci. Merci, ça a été...
Chapeau aussi à Catherine Sylvestre qui l'a coécrit avec toi. Là. On l'a salué en passant. C'est un autre très, très beau livre.
Oui, super belle collaboration. Tu sais, c'est elle qui a pris ma place à la Ferme des Quatre-Temps. C'est elle qui dirige les équipes maintenant.
C'est plus toi qui fais le discours de la rose et l'épine. C'est plus toi qui fais les speeches. Toi, quand t'arrives, t'es comme un chien dans un jeu de quai. Puis c'est comme Jean-Martin, tu vas aller désherber là-bas aujourd'hui vu que t'es le dernier de la gang. Là.
Ben... Moi, je suis le chien dans le jeu de quai, je viens tout mêler, tu sais, je viens... Ah, on devrait faire ça, puis là, c'est comme, j'entends, on avait un plan, puis là, tout arrive. Donc là, c'est pour ça, là, c'est vraiment juste Catherine qui décide tout. Moi, je fais Catherine, qu'est-ce que je fais, puis... Mais en même temps, je suis tellement fier, je suis tellement content, parce que, tu sais, moi, j'ai mis tout mon cœur, tu sais, on parlait d'amour tantôt, tu sais. Moi, la Ferme des Quatre-Temps, là, tu sais, c'est fou, là, ça a été une histoire d'amour incroyable, tu sais, tous les gens qui sont passés par là, à quel point j'ai été avec eux, puis je les ai aimés, tu sais, je croyais tellement à ce qu'on faisait. Tu sais, j'en parle au passé, parce que là, tu sais, j'ai plus complètement investi comme je l'étais, mais là, mon bonheur, c'est de voir que même si c'est pas moi qui est là avec tout mon amour pour avancer, le projet avance bien, tu sais, la nouvelle cohorte, là, c'est tellement beau, là, c'est tellement cool, là.
Oh, une chance qu'on s'aime.
Une chance qu'on s'aime. Une chance qu'on s'aime.